Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et la ligne droite, c'est comme tous les lundis, avec David Engels qui nous parle de Michel Houellebecq. Pourquoi avez-vous choisi... Bonjour David Engels d'abord.
Bonjour Richard, bonjour.
Et pourquoi avez-vous choisi Michel Houellebecq? C'est parce qu'en fait, il fête jeudi, cette semaine, son 70e anniversaire. Et je crois que vous avez une vraie relation avec cet auteur, dont vous avez régulièrement croisé les chemins, y compris en lui décernant en 2018 le prix Oswald Spengler ou en menant plusieurs entretiens avec lui.
Oui, tout à fait. Lorsque Michel Houellebecq atteindra ses 70 ans ce jeudi 26 février, l'événement marquera bien davantage qu'un simple jalon biographique. Il rappellera aussi à notre attention une existence littéraire qui a saisi, analysé, condensé, exposé le climat spirituel de la civilisation européenne tardive avec une intensité inégalée parmi les auteurs contemporains. Houellebecq est l'un des écrivains les plus importants de notre temps, précisément parce qu'il en est aussi l'un des chroniqueurs les plus impitoyables. Un auteur dont l'œuvre constitue à la fois le diagnostic et le symptôme d'un état civilisationnel d'épuisement et de décadence, qu'il décrit avec une précision clinique sans jamais parvenir à s'en extraire lui-même. Il n'est donc guère fortuit que le premier grand projet littéraire de Houellebecq ait été consacré à H.P. Lovecraft, maître de l'horreur cosmique. L'univers de Lovecraft, hanté par la nostalgie d'un monde occidental en déclin, tout en mettant en scène l'indifférence absolue de forces monstrueusement inhumaines, anticipe largement la vision propre de Michel Houellebecq, du moins sur le plan symbolique. À part Lovecraft, sa formation littéraire puise bien évidemment à la fois dans le naturalisme de Zola, l'anthropologie pessimiste de Schopenhauer et bien sûr dans la grande tradition décadente de Baudelaire à Huysmans. De cette synthèse singulière entre sobriété scientifique, pessimisme existentiel et modernité esthétique émerge la voix propre de Houellebecq, celle d'un auteur qui dessèque la modernité de l'intérieur plutôt que de l'attaquer à distance ou de proposer des alternatives concrètes. Depuis sa percée littéraire avec extension du domaine de la lutte et surtout les particules élémentaires, Houellebecq n'a cessé de décrire un monde dans lequel l'humanité, après l'effondrement de ses structures traditionnelles, se trouve liée à un état d'atomisation et d'aliénation émotionnelle, sexuelle et spirituelle. Le libéralisme, compris d'ailleurs non seulement comme système économique mais comme principe anthropologique, à pénétrer toutes les sphères de la vie, l'amour devient une compétition, la sexualité devient un marché, et la réalisation de soi devient plutôt une obligation stressante. Ainsi, l'individu moderne, loin d'être libéré, apparaît dans les romans de Houellebecq comme un consommateur solitaire dont la liberté consiste principalement à choisir entre différentes formes de vacuité. Ce diagnostic traverse son œuvre entière avec une constance presque monomaniaque. Plateforme met en scène la tentative de compenser l'aridité spirituelle occidentale par une sexualité marchandisée, une expérience qui s'effondre dans la violence. La possibilité du Nil radicalise cette logique en imaginant un avenir post-humain où l'humanité se remplace elle-même par des successeurs techniquement optimisés afin d'échapper à la souffrance pour découvrir finalement que le sens de l'existence disparaît en même temps que la douleur. Avec Soumission, finalement, son roman le plus célèbre sans doute, Houellebecq aiguise encore cette critique civilisationnelle et rentre dans le domaine de la fiction politique. Longtemps mal compris, notamment en Allemagne, comme étant une satire, voire une critique déguisée de la droite, le roman est moins un pronostic politique concret qu'une parabole spirituelle. Il dépeint une société française ayant déjà abandonné ses propres valeurs et acceptant dès lors volontiers tout nouvel ordre, promettant stabilité et structure, pourvu qu'il ne menace pas le pouvoir des élites existantes et qu'il exclut la droite, même si cela implique une islamisation complète du pays. Ses romans plus récents, en revanche, en particulier Sérotonine et Anéantir, adoptent un ton plus calme, plus résigné. La colère des œuvres antérieures cède la place à l'épuisement, le désespoir devient un genre de deuil assourdi. L'individu moderne apparaît désormais moins comme victime d'un libéralisme déchaîné que comme vestige impuissant d'un monde ayant définitivement fait son temps. Agriculture, nation, famille, masculinité, aristocratie, des structures qui fournissaient autrefois une orientation sont soit détruites, soit réduites à des caricatures creuses.
Au-delà de cette émission, vous nous parliez des liens qui unissent Houellebecq et Spengler, l'auteur du déclin d'Occident. Est-ce que vous pourriez être plus explicite à ce sujet ?
Oui, volontiers. Comme Spengler, Houellebecq perçoit la civilisation occidentale comme entrant dans sa phase terminale, marquée par l'individualisme, le matérialisme, l'effondrement démographique, la fatigue spirituelle, etc. Tous deux recourent aussi à des métaphores biologiques, interprètent l'histoire selon des cycles d'essor et de déclin, et comprennent la décadence non comme un échec moral, mais plutôt comme un destin structurel. Et finalement, il y a la crainte omniprésente chez Spengler de la stérilité artistique et de l'impuissance, qui trouve également un écho assez évident chez Houellebecq. Alors Houellebecq diffère toutefois de Spengler sur des points essentiels. Spengler propose une vaste morphologie des civilisations. Houellebecq, hormis les aspects un peu plus politiques dans Soumission, reste résolument centré sur la vie intérieure des individus prisonniers du déclin. La vision de Spengler est héroïque dans son fatalisme. Celle de Houellebecq, elle est intime, dépressive, saturée de misère corporelle. Là où Spengler prône une acceptation stoïque et digne de la nécessité historique, Houellebecq expose les ruines psychologiques produites par cette même nécessité. Une divergence plus subtile, mais significative, concerne aussi l'espoir. Spengler rejetait l'optimisme comme une forme de lâcheté, affirmant qu'il fallait simplement agir de manière appropriée à son époque et préserver sa dignité jusqu'au bout. Houellebecq, en revanche, toujours fortement influencé par Schopenhauer, laisse parfois place à des fugaces gestes de rédemption, notamment par l'amour et la religion, tout en doutant de leur viabilité. Et cette ambivalence nous conduit à sa relation complexe avec le christianisme. Houellebecq est depuis longtemps fasciné par le catholicisme, surtout à travers son intérêt pour Huysmans. Dans le passage de l'esthétisme décadent à la conversion catholique constitue un point de référence récurrent dans son œuvre. Huysmans représente pour Houellebecq une sorte une voie de sortie du nihilisme moderne, une sorte d'antidote à Nietzsche, par le dégoût du monde vers la transcendance. Mais contrairement à Huysmans, Houellebecq ne franchit jamais lui-même ce seuil. Ses romans gravitent autour du christianisme comme autour d'un horizon perdu, d'une grâce inaccessible. Ce qui émerge à la place ressemble au premier frémissement de ce que Spengler avait jadis appelé la seconde religiosité. Non pas une conversion authentique, mais plutôt une nostalgie diffuse de la transcendance dans un monde qui a oublié comment prier et qui, dans le cas de Houellebecq, semble parfois plus proche même du bouddhisme que du christianisme.
Alors, cette évolution de Houellebecq correspond aussi à une évolution, en fait, de la réception de Houellebecq dans les médias. Après une phase de quasi-omniprésence, à gauche comme à droite, on n'entend plus trop parler de lui.
Oui, tout à fait, et ce, non seulement parce que son dernier livre date déjà de 2022. La réception de Houellebecq dans le paysage médiatique contemporain, surtout français, reflète les nombreuses ambiguïtés de son œuvre. Pendant des années, certains segments de la gauche ont tenté de se l'approprier comme un genre de critique du néolibéralisme ou comme un humaniste ironique. Mais cette stratégie est devenue de moins en moins tenable. Son scepticisme à l'égard du progrès, du multiculturalisme, de la libération sexuelle et de l'individualisme radical est désormais trop explicite pour être ignoré. Ainsi, parce que son diagnostic du déclin occidental n'offre aucun salut politique, seulement la perspective de soins palliatifs, Houellebecq a progressivement été relégué dans la catégorie des réactionnaires par les médias de gauche. Mais pourtant, la droite, elle aussi, a fini par se détourner de Houellebecq, comme l'illustrent douloureusement quelques controverses plus récentes. Ainsi, sa participation à un projet de film pornographique, d'abord volontairement assumé, puis renié et porté en justice, lorsque les circonstances se révélèrent moins artistiques que prévues, l'exposa une vague d'indignation morale provenant tant des milieux progressistes et féministes que conservateurs et chrétiens. Presque simultanément, une interview dans laquelle il s'exprimait avec une franchise assez brutale sur l'islam, ainsi que sur les tensions démographiques et criminelles en France, déclencha des menaces judiciaires et des condamnations publiques, le conduisant à réinterpréter et clairement modérer ses propos dans son journal « Quelques mois dans ma vie ». Ce retrait ne lui valut pas le pardon de la gauche et fut pourtant accueilli très froidement par la droite politique qui l'accusa de lâcheté face à la pression dominante. Mais une telle déception méconnaît fondamentalement Houellebecq. Il ne s'est jamais présenté comme un genre de porte-drapeau patriotique ni comme un champion identitaire. Au contraire, il s'est toujours décrit, et l'Occident avec lui, comme fatigué, compromis et intérieurement érodé. Attendre de lui une posture de résistance héroïque, ce serait exiger un tout autre écrivain. Un Houellebecq érigé en icône nationaliste n'aurait jamais écrit Les Particules élémentaires ou Sérotonine. Il n'aurait jamais exposé avec une telle cruauté, mais aussi insidiosité, l'impuissance spirituelle, la confusion sexuelle et l'épuisement moral de l'Europe contemporaine. Ainsi, ses retraits occasionnels, sa gêne, voire sa faiblesse ne contredisent pas son œuvre, ils la confirment plutôt. Houellebecq se trouve donc aujourd'hui suspendu entre les mondes, trop sombre pour les progressistes, trop peu engagé pour les conservateurs, n'étant ni activiste, ni partisan, ni révolutionnaire, ni véritablement restaurateur. Il n'est pas situé en dehors de la phase terminale de la civilisation occidentale pour la juger depuis une position de pureté morale extérieure. Il en est plutôt l'un des produits et les symptômes les plus lucides. Cela explique à la fois la pertinence durable de Houellebecq et sa marginalisation croissante. Il contraint ses lecteurs à affronter le vide sans consolation offerte par des slogans moraux ou la correction politique. Il ne propose ni programme, ni solution, ni récit rédempteur. Son honnêteté est cruellement négative et donc extrêmement rare et extrêmement violente. Houellebecq ne sera donc pas retenu comme un auteur rassurant, et certainement pas comme un classique humaniste au sens traditionnel. Son héritage perdurera plutôt comme le document troublant d'une époque qui pressentait sa propre fin, mais qui manquait la force nécessaire pour l'empêcher.
Merci beaucoup David Engels, pas tant pour cette conclusion un peu désespérante, mais en tout cas pleine de lucidité, et à lundi prochain pour une autre chronique.
Tout à fait, à lundi prochain.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour l'analyse, j'ai le plaisir de recevoir Alarico Lazzaro, qui est un journaliste et écrivain italien, directeur de Nazione Futura. Bonjour Alarico Lazzaro.
Bonjour à tout le monde, merci pour cette invitation, c'était toujours un plaisir d'être avec vous.
Eh ben, merci beaucoup. Il y a cette mort de Quentin en France, il y a immédiatement une réaction en Italie de deux ordres. D'une part, les nationalistes italiens se sentaient émus par le sort de Quentin, par principe d'une certaine manière, et d'autre part, Giorgia Meloni elle-même réagit et adresse à la France, évidemment, l'expression de sa commisération. On va revenir dans un deuxième temps sur la manière dont Giorgia Meloni a réagi, mais d'abord une première question à Larico. Pourquoi l'Italie a-t-elle réagi si vite en organisant une manifestation en demandant elle aussi justice pour Quentin?
Et oui, bien sûr, c'est un moment très important pour l'Italie, mais aussi pour l'Europe entière et pour la France. Et samedi à Rome, avec les mouvements de jeunesse de la coalition du gouvernement, Frères d'Italie, Lega et Force Italie, nous avons organisé une manifestation pour rappeler un assassinat politique. Et nous ne pouvons pas mourir d'idéaux dans les 2026 en Europe. L'Europe, c'est la clé de voûte de la démocratie, de la confrontation pacifique. Et nos préoccupations sont celles d'une génération dont l'appartenance politique a souvent conduit à l'exclusion et aussi à un processus de marginalisation. Et nous avons apporté sur une place notre hommage à un jeune homme et militante et qui, croyant dans ses idéaux, a défendu ses collègues du collectif Nemesis et a été battu et massacré par une bande des extrémistes antifascistes. Et sur cette place, nous avons dit non à la haine de tous les couleurs politiques, également grâce aussi à la participation d'une délégation du parti Italia Viva, de Matteo Renzi, un parti de l'opposition. Parce que devant la haine, nous sommes très unis et c'était très important pour nous.
Alors, cette violence que vous avez condamnée, c'est évidemment une violence que vous vivez vous-même en Italie, car les antifascistes italiens ne sont pas réputés pour leur douceur.
Oui, bien sûr, de nombreux mouvements anarchistes et d'extrême gauche sont été aussi infiltrés dans ces événements, les cortèges plus importants, souvent sur des questions internationales comme la Palestine, ou contre aussi l'évacuation des centres sociaux, comme les cases à Turin et les cases d'Ascatasuna, dont deux policiers ont été touchés et blessés par les antifas d'extrême gauche. La violence antifa, c'était très fort en Italie, mais n'est pas encore à un niveau d'institutionnalisation comme en France, avec la jeune garde antifasciste qui est devenue un branche armée du parti islamo-gauchiste de Jean-Luc Mélenchon.
Alors, effectivement, que pensez-vous, puisque vous allez dans cette direction, que pensez-vous de la manière dont la France insoumise prétend n'avoir rien à voir avec la jeune garde?
Oui, c'est incroyable parce que aussi le président François Hollande a parlé contre l'islamo-gauchisme. Je pense que la liaison entre l'islam radical et la rive gauche est devenue une cause structurelle d'instabilité à l'intérieur de la France. Si tu penses que aussi le monde, les Parisiens ont parlé de la candidature de Raphaël Lannion, qui c'est le fondateur de la jeune garde antifasciste, comme une candidature très divisive, très dangereuse, parce que Arnaud est une fiche S considérée par la France comme un danger pour l'ordre public. Il a été candidat et constitutionnalisé par Mélenchon, et c'était un risque aussi pour les contours des élections présidentielles de 2027. Et c'était aussi très important comprendre ces situations pour l'Italie et pour les autres pays de l'Europe entière, parce que l'extrémisme de gauche, c'était très dangereux pour l'ordre démocratique et politique et aussi culturel de notre pays.
Alors, vous avez raison, et on voit d'ailleurs que les antifascistes agissent en toute impunité dans tous les pays de l'Europe et même ailleurs, par exemple aux États-Unis. Comment expliquer que les antifascistes sont à ce point-là libres de leurs propos, libres de leurs actes et semblent jouir d'une certaine impunité judiciaire?
Je pense que les médias, la presse et aussi les social networks perpètuent les mythes d'une droite violente, extrémiste, ignorante, rien de plus faux, parce que nous sommes libres et nous vivons la politique sous les signes du pluralisme. Les jeunes de droite aujourd'hui s'opposent à la massification et s'opposent aussi au conformisme imperant dans l'Europe entière, dans le monde entier, dans la culture de la civilité européenne. Et à répéter en continuation que la droite est extrême, hein, supporte les extrémistes de l'autre rive, de la rive gauche. Et c'était la seule motivation, selon moi.
Alors, en tant qu'Italien, évidemment, les mots fascisme et antifascisme, vous êtes bien placé pour savoir ce qu'ils veulent dire. Avez-vous l'impression que justement cette appellation revendiquée d'antifasciste est exacte historiquement, idéologiquement, philosophiquement?
Et c'est une bonne question parce que je pense que les clivages en Italie, mais aussi dans l'Europe entière, dans le monde entier, sont changés. Et sont changés parce qu'aujourd'hui, la frontière est entre le conservatisme et le progressisme. Et d'une part, nous avons la tradition, le respect de la tradition et de la spiritualité et du pluralisme. D'autre part, nous avons des formes violentes de néo-marxisme qui sont été devenues aussi illibérales sur les droites, sur l'environnement et aussi un petit peu messianique sur la politique. Et les fascismes et les communismes, selon moi, sont des expériences historiques finies et seulement dans les livres des histoires. Et c'est important aussi comprendre les clivages que nous avons aujourd'hui, aussi pour comprendre la politique, parce que c'est incroyable comme la rive gauche a été utilisée le fascisme comme arme politique dans les 2026, et c'est incroyable.
Effectivement, ça paraît hors de proportion avec ce qu'a été véritablement le fascisme et la réaction antifasciste. On va revenir sur la manière dont Giorgia Meloni a adressé à la France des paroles, comment dire, une fois plus, de commisération et de soutien par rapport au drame, et à la manière très curieuse dont Emmanuel Macron s'est offusqué du fait qu'il y ait, selon lui, une ingérence étrangère, puisqu'il a dit à Giorgia Meloni que chacun s'occupe des affaires intérieures de son pays et que les moutons seront bien gardés. Alors, en tant que mouton, puisque voilà, je suis gardé par Emmanuel Macron, en tant que mouton, j'ai quand même trouvé que la réaction d'Emmanuel Macron était étonnante. Comment vivez-vous cette réaction? Comment est-ce que l'Italie a reçu les propos d'Emmanuel Macron?
La presse en Italie a parlé de cette relation très difficile entre Macron et Giorgia Meloni. Mais je pense qu'Emmanuel Macron a détruit la France. Et le déclin en France a commencé avec le président socialiste, bien sûr, François Hollande, qui a perdu sa bataille contre le terrorisme et l'instabilité intérieure. Et Macron a perdu de vue la polarisation politique de son pays, l'extrémisation de la politique de son pays. Il a enfermé les pays dans les logiques d'affrontement, de contrepositions entre les États-Unis de Donald Trump contre l'Italie de Giorgia Meloni pour une motivation de fanatisme idéologique et politique. Et la France aujourd'hui vit des blocages institutionnels. Et le message à Giorgia Meloni, et je pense que c'est un message de frustration. Et parce que Meloni a écrit un hommage, parce qu'elle vient d'une histoire d'une génération de militants politiques, comme les gens qu'entendent. Et avec un fort et joli engagement entre les jeunes. Et la mort de Quentin a touché émotionnellement Giorgia Meloni et aussi l'Italie et l'Italie entière, et non seulement l'Italie de la rive droite. Et l'Italie n'a pas besoin de légitimité d'Emmanuel Macron parce qu'aujourd'hui, dans son pays, si peu mourir des idéaux. Et dans l'Italie de Meloni, fortunatement, nous sommes libres. Et c'était, je pense, la chose la plus importante. Et c'était, je pense, une réponse de frustration parce qu'aujourd'hui, l'Italie est la première force de l'Europe entière pour la stabilité à l'intérieur. Si tu penses à une situation de 10 ans après ce moment, nous avons vu toujours la France comme un exemple de stabilité et de force à l'étranger et à l'intérieur. Nous avons aussi toujours célébré la force de la grandeur. Mais avec Emmanuel Macron, vous avez perdu sa place, place dans le monde de la grandeur. Et c'était très important. Je pense que c'était une réaction de frustration politique.
Alors, avec Macron, effectivement, on a l'impression que la France a perdu de son influence. Et au contraire, avec Giorgia Meloni, on a l'impression que l'Italie a regagné en influence, que l'Italie se pose en partenaire privilégié des États-Unis à côté de l'Allemagne. Et d'ailleurs, que l'Italie est capable de, désormais, entre guillemets, de se passer de la France et de se passer de ses leçons.
Oui, bien sûr, je pense que l'Italie a pris une position très importante dans l'histoire européenne que nous avons aujourd'hui, parce que c'était aussi la première partenaire des États-Unis de Donald Trump, qui pense aussi que Meloni, c'était une leader formidable. Je pense aussi que l'Italie a fait un process d'institutionnalisation des clivages les plus brutales, les plus difficiles que nous avons vus dans les 10 ans du populisme, du souverainisme. Avec le conservatisme, nous avons une forme de souverainisme institutionnel. Nous avons la force des idées contre l'haine, contre l'antifascisme violente et aussi militante. Nous avons des formes de collaboration politique entre les trois animes de la coalition de l'Italie qui sont importantes aussi pour faire un exemple pour la France. Parce que si nous pensons aussi à la possibilité d'avoir l'union des droites en France entre Bardella, Marion Maréchal, Éric Ciotti, Éric Zemmour et toutes les autres forces de la rive droite, c'est un exemple parce que nous ne sommes pas une république présidentielle. Je pense que la forme de gouvernement est institutionnelle, c'était très important pour marquer ces différences entre la force de la coalition de l'Italie et la force de la coalition possible dans le futur de la France. Mais l'Italie peut être aussi un exemple pour les autres pays et aussi pour la coalition, la possible coalition du gouvernement français pour la rive droite. Parce que vous êtes bloqué avec beaucoup de blocages institutionnels, mais nous n'avons pas un de Gaulle dans ces moments très importants. Vous devez retrouver votre position dans le monde. Je me souviens le grand discours de Georges Pompidou dans les moments de la mort de Charles de Gaulle. Il a dit « La France est vive ». Aujourd'hui, malheureusement, la France est pour une seconde fois veuve parce qu'elle a perdu sa bataille pour la stabilité à l'intérieur, pour la force à l'étranger, a perdu sa bataille contre la déconstruction de l'identité européenne et française, a perdu la bataille d'un pays qui est le pays de Jeanne d'Arc, de Charles de Gaulle, de Napoléon Bonaparte, de la Grande Révolution, de l'universalisme, du Grand Empire. Vous êtes un pays incroyable. Et vous devez redevenir à cette incroyabilité et ses forces. Vous devez retrouver sa place dans le monde. Je pense que la rive droite peut être la solution à ces problèmes. Et aussi, la coalition et la forme du gouvernement que nous avons en Italie peut être un exemple sur la force des coalitions. Parce que c'est important de rester unis dans ces moments.
Alors, à la Ricolazzaro, nous reviendrons justement sur cette coalition possible des droites en France. Vous avez écrit un livre sur Éric Zemmour, vous avez écrit un autre livre sur Marine Le Pen, une comparaison entre Marine Le Pen et Giorgia Meloni, donc vous êtes tout à fait au courant de la vie politique française. Revenons un tout petit peu en arrière, où après Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot, donc le ministre français des Affaires étrangères, a dénoncé l'international réactionnaire, et donc il est très énervé que le monde entier se permette de commenter ce qui se passe en France en oubliant généralement que les politiques français et le président de la République française en tête ne se gênent jamais pour commenter ce qui se passe chez les autres ou expliquer qu'ils vont même intervenir chez les autres. Pensez-vous qu'il y a une véritable internationale réactionnaire au sens où l'entend Jean-Noël Barrot ?
Absolument pas, parce que dans chaque culture, bien sûr, il y a des extrémistes qui doivent être isolés, mais parler d'une internationale réactionnaire, extrémiste, est faux, est complètement faux. Parce qu'aujourd'hui, les mouvements conservateurs qui ont été élus par les peuples européens travaillent pour combattre la culture woke, l'oïcophobie, pour écouter aussi Roger Scruton, l'oïcophobie occidentale, est aussi pour offrir un modèle de vie qui ne recule pas devant les défis complexes du présent que nous avons aujourd'hui. Une coopération officielle qui se nourrit aussi des moments de mémoire, des moments des émotions et des moments de justice, et comme dans ces moments de justice pour Quentin. Je pense c'était un moment de réflexion. Je ne pense qu'il existe une internationale réactionnaire. Je pense qu'il existe la France des idées qui a uni beaucoup de conservateurs dans tout le monde entier.
Alors, il n'y a pas d'international réactionnaire, en effet. En revanche, il y a une internationale antifasciste. Le député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud, a été aperçu à plusieurs reprises en Italie pour accompagner ses camarades antifascistes. Il a expliqué d'ailleurs qu'il venait soutenir les antifascistes italiens. Est-ce qu'il y a, à votre sens, une internationale socialiste révolutionnaire ?
C'est une bonne question, j'espère que non. Mais la liaison que nous avons entre l'islamo-gauchisme français est aussi l'extrémisme de l'extrême rive gauche italienne ont été aussi établis, ont été aussi écrits par des articles sur les journaux, les plus importants quotidiens de la rive de centre-droite, par Francesco Giubilei, écrivain, essayiste, président de Nazione Futura. Des articles aussi repris par les journaux en France progressistes, Libération et aussi Le Monde, dans lesquels nous avons aussi écrit la nature de cette liaison, la nature de cette collaboration qui unit Rome à Paris et aussi à Lyon, avec ces batailles qui n'est pas plus une bataille d'idées, c'était une bataille de violence, d'extrémisme. Et comme j'ai dit, Arnaud est une fiche S et considéré par la France comme un danger pour l'ordre public. Aussi les Parisiens, aussi Le Monde, beaucoup des journaux ont écrit des articles après les élections européennes de 2024 pour dénoncer cette institutionnalisation très dangereuse que nous avons en France avec la France insoumise. Parce que c'est un instrument pour l'accès au pouvoir de Jean-Luc Mélenchon, mais c'était impossible de contrôler ces typologies des instruments extrémistes et violentes. J'espère que non, mais je pense que les extrémistes de gauche ont été devenus très dangereux aussi avec ces formes de collaboration à l'étranger. En Italie, nous avons un exemple avec la reçue de Raphaël Arnaud dans la Garbatella à Rome pour un événement organisé par les partis Alleanza Verdi e Sinistra. C'était les partis bien sûr connus dans l'Europe entière pour la question d'Ilaria Salis. Et c'était la seconde fois, mais nous irons aussi à comprendre ces collaborations extrémistes qui a transformé complètement ces partis dans la France insoumise italienne. Et c'était très important aussi écrire et comprendre, défendre la nature de ces liaisons. Aussi pour combattre la haine avec l'amour, comme les slogans que nous avons vus dans la place de Rome. Votre haine contre notre amour. Parce que c'est l'amour toujours qui gagne. Et les Français sont très bons aussi avec ces slogans, ces mottos. C'était très important.
Merci à Larico Lazzaro. Revenons justement à la France et à l'Italie. Avec cette comparaison que vous avez établie entre Giorgia Meloni et Marine Le Pen, entre celle qui a réussi à prendre le pouvoir en Italie et celle qui essaie de prendre le pouvoir depuis quelques années, est-ce que, pardon, la coalition qu'a réussi Giorgia Meloni est-elle possible en France? Peut-on agréger autour de Marine Le Pen ou autour de quelqu'un d'autre l'ensemble des forces de droite?
Le système politique français a été établi par le général de Gaulle dans un moment très important pour l'histoire française, avec beaucoup de blocages institutionnels. Dans votre pays, le président de la République, c'est la clé de voûte des institutions. C'était la force et la personnalité du pouvoir dans les institutions, dans la place dans le monde de la France. Et c'était je pense, la plus importante distinction que nous avons entre les systèmes politiques italiens et les systèmes politiques de la France. Parce que la force d'une coalition en Italie, c'était possible parce que c'était aussi nécessaire. Pour gagner dans l'Italie, pour gagner dans les régions, pour gagner dans les départements que nous avons ici. Mais le problème en France, c'était la force et la personnalité et le leadership. Je pense que c'est tous les leaders de la rive droite, c'est pas uni. Je pense dans ces moments, parce que les sondages dans les partis du Rassemblement national, au 30%, mais aussi, je pense, peut devenir la force des majorités absolues dans les deuxièmes tours des élections, si tu penses d'avoir comme candidat à l'opposant Jean-Luc Mélenchon. Mais la force de la personnalité doit devenir dans une seconde fois si tu penses à l'importance de ces batailles pour la France. La France d'abord dans ces moments. C'était très important. Je pense que la coalition, c'est possible si la personnalité et le leadership deviennent secondaires après la force et l'importance pour la France entière d'avoir ordre et stabilité dans ces moments. Je pense que c'est possible. C'était difficile, mais impossible n'est pas français, comme a dit Napoléon Bonaparte. Et je pense aussi que la force de Meloni est devenue une force d'institutionnalisation complète avec les mouvements des conservateurs aussi en Europe. La force de Marine Le Pen peut être la force aussi des jeunesses, la force d'une nouvelle génération, et comme d'une nouvelle génération comme la génération de Bardella, qui peut compléter les process de dédiabolisation avec une force du gouvernement solide et aussi très forte dans la bataille électorale. C'était très important pour l'Europe entière, non seulement pour l'Italie, non seulement pour la France, mais pour la stabilité du continent.
Alors, Jordan Bardella a justement pris ses distances, semble-t-il, avec l'engagement de la jeunesse, enfin, d'une certaine jeunesse française autour de Quentin. Trouvez-vous que c'est une habileté tactique? Trouvez-vous au contraire que Jordan Bardella aurait pu soutenir plus franchement ceux qui allaient rendre hommage à Quentin?
Je pense que dans ces moments, la rive droite doit être unie. Unis dans cet hommage, unis dans ces moments très importants. Je pense que la campagne électorale a commencé en France et la nécessité aussi d'avoir une image présentable, la force des idées sur la violence et sur les extrémistes, pour faire un exemple, les extrémistes de la rive gauche, mais aussi quelque chose sont été aussi devenus dans l'opinion publique connus pour les extrémistes de la rive droite. C'est important dans ces moments rétablir l'ordre, avoir ordre et surtout stabilité à l'intérieur. C'est important, et aussi Bardella a connu cette expérience politique pour ces processus de marginalisation, parce qu'en France, en Italie, si tu es un jeune de droite, après la victoire de Giorgia Meloni, nous n'avons la possibilité de parler avec liberté, mais avec la victoire de Giorgia Meloni, nous sommes devenus aussi une communauté des cultures, des convictions et des communautés l'unité politique. Je pense aussi que pour le Rassemblement national peut être la même chose avec la victoire à les élections de 2027 de Jordan Bardella. Parce que en France, il y a une autre citation très importante, vous dites simple, les destins des maîtres dans cette situation. Mais je pense que le déclin aussi est une question de choix. Et dans ce cas, est une question de choix électoral. Ramener la droite à l'Élysée, vous ramènera aussi sur le chemin de la grandeur. C'était la seule solution. Parce que les élections de 2027 est une clé de voûte pour le futur de la France. Et je pense la clé de voûte finale pour le destin français. Et c'est important.
Alors, pourquoi 2027 serait-il la clé de voûte finale? Parce que si on rate cette élection de 2027, à votre avis, la France aura basculé soit dans l'extrême centre macronien avec on ne sait qui, soit au contraire dans l'extrême gauche mélenchonienne?
Je pense oui, parce que si nous considérons les différents partis que nous avons en France, nous avons une situation d'instabilité. Parce que nous avons les partis traditionnels en crise. Nous avons les partis néo-gaullistes de Sarkozy qui a gagné dans les 2007 et les partis socialistes qui a gagné dans les 2012 de François Hollande en crise, avec nombre qui sont été devenus nombre des partis minoritaires. Un parti avec une crise aussi d'idéologie. Parce que la chose, pour faire un exemple, de Valérie Pécresse pour les élections de 2022 a démontré que les partis des Républicains ont été devenus un parti des centristes. Et c'était important aussi de parler de la force du néo-gaullisme dans l'opinion publique. Un parti centriste ne peut être un parti d'inspiration gaulliste. Nous avons les partis socialistes avec cette bizarre liaison entre la rive gauche et aussi entre la France insoumise. C'est une coalition qui a complètement déconstruit la force électorale du Parti socialiste, avec l'islamo-gauchiste qui devient la première force de la rive gauche. Nous avons une droite divisée et la situation est maître. Si Bardella gagne, la stabilité peut être réaffirmée. Si Mélenchon gagne, le modèle politique français sera complètement déconstruit. Si le bloc du macronisme, du républicain et du centrisme libéral gagne, vous avez une situation qui était très similaire à la situation que vous avez expérimentée avec Emmanuel Macron dans ces 5 années. Oui, bien sûr. Je pense que c'était la nécessité de changement. Et le changement est important, était possible seulement avec le bloc de la droite à l'Élysée. Parce que le bloc mélenchoniste est très dangereux pour la démocratie et le bloc macroniste ne peut gouverner avec la stabilité qu'un pays complexe comme la France a la nécessité d'avoir. C'est important. En Italie, nous avons les livres de Tomasi de Lampedusa, Il Gattopardo, et c'était un bon aussi piste de cinématographie avec le grand Alain Delon. Et dans ces pistes de cinématographie, nous avons expérimenté la force métaphorique du conservatisme. Changer tous les aspects pour changer rien. En France,
il faut tout changer pour que rien ne change.
Exactement. En français, c'est de cambiare tutto per non cambiare niente en italien. Et je pense que c'était une piste de cinématographique emblématique pour aussi raconter la situation en France. Parce que vous avez la nécessité de changer. Vous avez la nécessité aussi de comprendre les erreurs et les hontes du gouvernement d'Emmanuel Macron et de François Hollande. Vous devez redevenir à la grandeur. Parce que c'est important, comme j'ai dit beaucoup de fois, c'est important pour la stabilité du continent, parce que la France est un des pays les plus importants dans le monde entier.
Alors, ça, on sort un tout petit peu du cadre de l'entretien où il s'agissait de faire réagir un observateur de la vie politique française et italienne à la mort de Quentin, mais vous ouvrez la porte à cette question-là, c'est la question de la grandeur. Avec Giorgia Meloni, l'Italie a-t-elle retrouvé sa grandeur? Je précise un tout petit peu ma question. L'Italie est assez dépendante en fait des fonds européens pour sa relance. L'Italie a une note financière qui s'est améliorée, mais qui reste encore fragile. L'Italie a un véritable problème de démographie. La France vient d'arriver au croisement des lignes, mais l'Italie, entre mortalité et natalité, mais l'Italie est vraiment à un niveau inférieur. Et Giorgia Meloni apporte-t-elle un espoir sur plusieurs générations à l'Italie, ou est-elle en train de mieux gérer le déclin?
Oui, bien sûr. Je pense que la force de Meloni, c'était aussi l'approche empathique. L'approche empathique avec les autres grands leaders que nous avons dans le monde, dans l'Europe, mais aussi la force des idées et les modèles de vie qui défendent la tradition, qui défendent la spiritualité, qui défendent la famille et les institutions qui ont fait aussi la fortune de l'Italie, de l'Europe, de la culture occidentale pour en un temps. Et je pense aussi que nous avons beaucoup des importants défis. Et nous avons la défi démographique parce que nous avons expérimenté et nous irons en expérience aussi dans les futurs, dans 2050, cet hiver démographique. Et nous avons beaucoup de défis dans le monde de la géopolitique, l'instabilité du continent avec la guerre en Ukraine, l'instabilité de la guerre entre les Palestiniens et Israël. Et nous avons l'instabilité dans la France-Afrique. Et nous avons aussi proposé les pianos Mattei pour aussi rétablir la force de l'Europe et de l'Italie, mais aussi en part de la France, et dans la France-Afrique. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'avec les élections de 2026 et 2027, en France et en Italie, nous pouvons aussi inaugurer une nouvelle forme de collaboration entre l'Italie de Giorgia Meloni, l'Allemagne de Frédéric Merz et j'espère aussi la France de Jordan Bardella, ou le candidat de droite qui peut gagner les élections. Parce qu'avec ces forces d'idées, forces politiques et pragmatiques de l'Italie, de l'Allemagne et de la France, nous pouvons être aussi un sujet politique très fort. Parce que nous sommes dans le grand retour des empires. Et c'était un moment pour la géopolitique très difficile parce que les empires sont été devenus très importants pour la force géopolitique, aussi pour les nouveaux mondes multipolaires. Et nous sommes dans les grands retours des empires, la Chine, la Russie, les États-Unis, mais l'Europe, les destins de l'Europe, nous voulons aussi devenir un sujet politique très fort. Avec Meloni, c'était possible.
Ce retour des empires, donc on voit bien que l'empire américain a décidé de se replier sur son hémisphère, du Groenland jusqu'à la Terre de Feu. Il y a l'empire indien qui est en train de grandir. Et d'ailleurs, il c'est moins un empire qu'une immense nation, mais qui essaye d'avoir plus d'influence, notamment à travers les BRICS. Et on a l'empire américain d'un côté, on a la Chine et l'Inde qui sont d'immenses nations qui ont peut-être une volonté impériale, certainement du côté de la Chine. L'Union européenne, et là ça fait directement référence à votre propre engagement au sein du confédéralisme européen, et notamment de ce mouvement des jeunes confédéralistes européens, l'Europe a-t-elle les moyens de redevenir un empire, ou au contraire, l'Union européenne va-t-elle empêcher l'Europe d'être véritablement une puissance ?
Oui, je pense que dans ces moments, les mouvements confédéralistes, l'idée d'une Europe confédéraliste est devenue majoritaire dans les groupes de la rive droite aussi au Parlement européen, les groupes des conservateurs et réformistes, les groupes de l'Europe, des nations souveraines, les patriotes pour l'Europe. Et je pense que le seul groupe du Parlement européen a été devenu un parti fédéraliste et a resté parti fédéraliste aussi pour cette génération, c'est les partis populaires. Et dans ces moments très, très difficiles pour le monde entier, l'Europe n'est pas devenir un empire. Ce n'est pas possible. Le monde de l'Europe entière comme un empire était tramonté avec, je pense, Napoléon Bonaparte, le seul empereur de tous les Européens. Et je pense aussi que la grande force d'une Europe comme sujet politique peut être regagner l'autonomie stratégique. C'est une question d'autonomie stratégique, pour la sécurité, et pour l'économie, et pour la politique, et pour la culture. Parce que si nous pensons aussi à les pays du bloc des BRICS, et nous pensons à la Chine, mais aussi à l'India de Narendra Modi, qui s'était devenu aussi un partenaire très important pour l'Italie de Giorgia Meloni. Ils ont été très proches, Narendra et Meloni. Parce que nous parlons aussi des pays qui ont expérimenté une mondialisation incomplète. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux clivages, sont été devenus la force. La mondialisation incomplète est devenue leur force. Est devenue la force avec la démographie, est devenue la force avec les champs du valeur que nous avons vu aussi pour la Chine dans la France-Afrique, pour la Russie dans la France-Afrique, que nous avons vu aussi dans les différents continents du monde entier. Je pense que la France et l'Europe peuvent être la confédéralisation, peut être le respect du principe de subsidiarité, peut être aussi l'autonomie stratégique sur l'économie, sur l'énergie et aussi sur la culture, parce que c'était en question culturelle. De mon avis, nous avons la possibilité dans le futur de devenir sujet politique et nous avons la possibilité de réagir. La chose est très simple, nous avons la possibilité de réagir ou de périr.
Eh bien, merci beaucoup à Larico Lazzaro. Ça nous a entraîné un peu loin de Quentin, mais c'était absolument passionnant. Et j'espère à bientôt sur Radio Courtoisie.
Merci à tout le monde et vive l'amitié franco-italienne.
Merci.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Ligne droite.
Et ligne droite, maintenant, c'est avec Gilles Brochard qui nous offre sa revue de presse.
Bonjour Richard, bonjour Franck, chers auditeurs. Mais que se passe-t-il entre l'Iran et les États-Unis ? Tout semble à la fois plus clair et confus. Le Figaro n'hésite pas à titrer en gros titre « Donald Trump, le doigt sur la détente face à Téhéran ». Les forces rassemblées ces dernières semaines par les États-Unis au Moyen-Orient, écrit Adrien Jones, rendent crédibles les menaces d'une action militaire. Le groupe aéronaval du porte-avions USS Abraham Lincoln, présent dans l'océan Indien, a été renforcé ce week-end par celui du USS Gerald Ford, qui croise à présent en Méditerranée après avoir participé aux opérations contre le Venezuela dans les Caraïbes. Plusieurs escadrilles de l'aviation américaine ont aussi été déployées. Des avions furtifs F-35 et F-22 capables de pénétrer les défenses aériennes iraniennes et des chasseurs F-15 et F-16 ont été prépositionnés, ainsi que des avions ravitailleurs et des avions de transport lourd permettant de mener une campagne aérienne prolongée. Des avions radars AWACS nécessaires pour coordonner des opérations aériennes de grande ampleur sont aussi arrivés dans la région et Adrien Jones précise aussi que l'Arabie Saoudite et le Qatar avaient refusé de leur côté que leur base soit utilisée dans des opérations visant l'Iran. C'est pourquoi les appareils ont été stationnés en Jordanie et il faut se rendre à l'évidence, cet imposant dispositif aérien est le plus vaste déployé dans la région depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Bon, on le sait, Donald Trump a demandé à l'Iran de faire des concessions en matière nucléaire et Adrien Jones l'affirme, le président américain demanderait aussi que Téhéran renonce à des pans entiers de son programme de missiles balistiques et à sa politique d'influence régionale via son réseau de milices alliées à travers le Moyen-Orient. Ces revendications dépassent largement les concessions que le régime est prêt à offrir et équivaudrait à une capitulation. Un refus iranien pourrait mener rapidement à une opération militaire. Critique des engagements militaires extérieurs de ses prédécesseurs, Trump a montré sa préférence pour des opérations ponctuelles et décisives comme le raid contre les installations nucléaires iraniennes en juin 2025 ou le rapt de Nicolas Maduro au centre de Caracas en janvier dernier, et le journaliste du Figaro de conclure, une campagne aérienne méthodique contre les infrastructures iraniennes, pétrolières, électriques impose un effort prolongé qui n'est pas forcément compatible avec les objectifs de Trump. Affaire à suivre de près car le feuilleton Iran-États-Unis a repris de plus belle. Et puis alors que demain, l'Ukraine s'apprête à entrer dans sa cinquième année de guerre, le quotidien L'Opinion dresse le bilan de la guerre en Ukraine version Trump avec ce titre « Trump, un an de vaine agitation ». Clément Danier et Lola Ovarlez écrivent que, sur tous les plans, le président américain prétendait qu'il était mieux placé que son prédécesseur pour rétablir la paix. Nous entretenons d'excellentes relations avec Zelensky et j'ai également d'excellentes relations, comme vous le savez, avec le président Poutine, disait-il. Alors, ces bons rapports devaient lui permettre de se positionner comme un arbitre neutre et juste pour convaincre les dirigeants russes et ukrainiens de s'entendre et vite. Malgré cela, on connaît la suite, l'échec de ce projet et, selon L'Opinion, l'amateurisme américain dans ce dossier. Écoutons Jim Thompson, l'ancien directeur de la politique européenne et de l'OTAN au Pentagone. Donald Trump et toute son administration sont dépassés. Il n'y a plus personne au sein de l'administration qui soit véritablement spécialiste de la Russie ou de l'Ukraine. Le département d'État s'en est séparé l'année dernière. Et ce commentaire, cité toujours par L'Opinion, signé Aaron Miller, l'ancien négociateur des accords d'Oslo sous Clinton, en Ukraine comme à Gaza, Donald Trump cherche à mettre fin au combat et non à la guerre. L'armée russe avance toujours en Ukraine, 4 ans après le début de la guerre. Mais à quel prix ? S'interrogent les échos. On parle de 418 170 soldats tués côté russe, soit près de 35 000 par mois. Et mi-février, le secrétaire général de l'OTAN évoquait encore 65 000 soldats russes tués ou blessés en l'espace de 2 mois. Et le bilan est mince car la Russie n'a occupé que, en 2025, qu'1% de l'Ukraine. Et le président Zelensky écrit sur les réseaux sociaux que les Russes perdent 156 personnes pour occuper 1 kilomètre de notre territoire. Bref, la question clé est politique autant que militaire, écrit les Échos. Le Kremlin parie sur l'érosion du soutien occidental à l'Ukraine, tandis que Kiev mise sur l'essoufflement progressif du modèle russe. Mais jusqu'où ira l'effort de guerre et notamment la mobilisation des hommes côté russe? À lire aussi dans les Échos l'article « Un conflit qui a bouleversé les règles de la guerre sur le front ». Alors côté culture maintenant, le Parisien donne la parole à un maître de la bande dessinée, l'Italien Milo Manara, qui vient de publier chez Glénat le 2e tome de son adaptation du Nom de la Rose, le roman historique d'Umberto Eco. Il raconte notamment que Brigitte Bardot lui avait demandé des aquarelles pour un livre destiné à financer sa fondation. Elle parlait bien italien, dit-il, et se souvient encore que son mari, Bernard Dormal, avait eu l'idée d'une statue à son effigie. Et le soir d'inauguration, elle ne voulait pas de photographe. Quand sa voiture est arrivée, raconte-t-il, tout le monde a sorti les portables, les flashs crépitent, et elle a fait signe à son chauffeur de ne pas s'arrêter, et je ne l'ai jamais rencontré. Et puis dans La Croix, JMG Le Clésio donne un entretien à Christophe Henning et Fabienne Lemayeux. À la question « Qui sont les voyageurs qui vous ont le plus marqué ?», sa réponse est directe, confie-t-il. Il ne s'agit pas de nom, mais de sa grand-mère, pardon. Et vers la fin de sa vie, confie-t-il, elle prenait le train toute seule avec un petit appareil pour cuisiner. Elle cuisinait dans le wagon et disait « Moi, je ne peux pas manger froid ». Sans parler l'allemand ni l'italien, elle allait visiter l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne. Et quand elle arrivait quelque part, elle n'avait aucune réservation. Elle trouvait un petit hôtel et allait au café du coin. Et cette vieille dame donnait le coude aux autres clients et buvait en chantant. Voilà une bonne voyageuse, conclut Le Clésio. À lire dans La Croix. Et je vous dis à demain.
Zone libre.
Eh bien, merci beaucoup à Gilles Brochard et j'accueille la crème de l'intelligence française à mes côtés, c'est-à-dire les journalistes de Ligne Droite pour une zone libre, brève et intense. Bonjour Louis Rigaudière.
Bonjour Richard, bonjour à tous.
Alors, quelle nouvelle aujourd'hui ?
Ah, c'est moi qui commence cette fois.
Bah, oui.
Écoutez, non, mais parce que c'est le vendredi d'habitude qui je suis réservé normalement le vendredi.
Oui, là, c'est plus d'habitude, hein, faut pas le perturber. Hein.
Mais je suis un petit peu déstabilisé, je suis pris de court. Alors, je vais vous donner rapidement un mot sur la jeune garde, parce que le JDD s'est posé cette question. Quelle suite pour la dissolution ? Parce que c'est vrai que Bruno Retailleau avait enclenché la dissolution et elle est effective, hein, depuis quand même un certain temps. Sauf qu'il y a un recours devant le Conseil d'État qui a été déposé, qui est toujours en état d'études et on ne sait pas encore quand la décision finale va être rendue, sauf que le JDD nous dévoile un peu plus le profil des deux procureurs qui sont en charge de l'affaire. Et donc l'une est ancienne conseillère de l'ex-ministre de la Culture Françoise Nyssen et directrice des affaires juridiques d'Anne Hidalgo à la ville de Paris, et l'autre est adjoint au maire socialiste de Pantin.
Eh bien voilà, la justice est indépendante, rappelons-le.
C'est exactement, ça nous donne un petit indice de la suite de toute cette affaire judiciaire, et ça nous explique aussi pourquoi des mouvements comme les soulèvements de la Terre ont pu continuer leur activité.
Et rappelons que la Cour suprême aux États-Unis, dont on nous a expliqué qu'elle était constituée de fascistes absolus, vient de désavouer Donald Trump. On a peut-être quelques leçons à recevoir en matière d'indépendance de la justice. Et vous, camarade spécialiste des lapins?
Eh bien, moi, j'ai trouvé quelque chose que malheureusement personne n'a relayé, ni le Figaro, même nous, Ligne Droite, on n'a même pas pensé en faire un sujet.
Oh là là.
Ouais, il s'avère qu'en Allemagne, un patient inattendu s'est présenté aux urgences. Un cormoran a tapé avec son bec contre les portes coulissantes de l'établissement parce qu'il était grièvement blessé.
Ah ouais.
En effet, l'oiseau a pu être pris en charge alors qu'il avait un triple hameçon planté dans le bec.
Ah, le pauvre.
Voilà, donc dans un premier temps, les personnels de l'hôpital n'ont même pas réussi à l'attraper. Ils ont dû faire appel au secours. Les pompiers ont réussi à le maîtriser, à sectionner une partie du crochet métallique. Et voilà, il a été relâché sain et sauf. Tout a bien fini pour ce cormoran qui est venu toquer à la porte des urgences en Allemagne.
Qui ne vend plus un cormoran, donc.
Oh. Bravo. Voilà. Et vous, ami Galzin?
Déjà, je souhaiterais saluer effectivement la nouvelle de Magda qui donne de l'espoir un petit peu à notre société qui en a bien besoin.
Et à tous les cormorans qui font brère tous les pisciculteurs français, puisque c'est une espèce protégée qui est en train de ruiner l'intégralité des viviers.
Toujours ce besoin de rajouter du négatif partout, Richard, c'est inquiétant. Non, mais moi, je veux pareil aborder un autre sujet qui me semble presque aussi important, c'est celui du petit singe Ponche. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Ponche, mais donc du coup, c'est un petit singe, un petit macaque japonais qui a été rejeté par sa mère, qui vient du zoo d'Ishikawa au Japon. Et ce petit singe, en fait, est devenu une sorte de phénomène absolument dantesque sur les réseaux sociaux où, en fait, tout le monde suit, grâce à des caméras, ces étapes de sociabilisation. Et il se trouve que l'intégration, de Ponche au sein de la tribu de macaques japonais est particulièrement compliquée. Je vous invite quand même à suivre ses aventures qui sont assez touchantes. Notamment, il a cette tendance, quand il est rejeté par le reste de sa tribu, à faire des câlins en son doudou macaque japonais, ce qui est parfaitement mignon. De nouveaux épisodes devraient arriver.
Merci beaucoup Alexandre Le Gazin. Une leçon pour tous les membres de l'aide sociale à l'enfance qui sont incapables de se comporter comme des macaques japonais. Et merci beaucoup chers auditeurs de nous avoir suivis jusqu'à maintenant sur YouTube et sur X. C'est fini, évidemment Radio Courtoisie continue et Ligne Droite continue jusqu'à 10h. Vous pouvez néanmoins faire un dernier geste, c'est-à-dire nous aider en nous soutenant.
Un joli geste, un beau geste de votre part est attendu, chers amis de Radio Courtoisie, chers auditeurs qui financent à 100% notre radio. Il suffit d'aller sur soutenir.rc.fr. Merci d'avance.
Et nous entendrons tout de suite la rediffusion de l'entretien avec Véronique Le Floch dans Debout les Français. La France célèbre l'agriculture tout en laissant mourir ses agriculteurs.
Ligne droite. Debout les Français.
Debout les Français, c'est avec Véronique Le Floch, agricultrice, éleveuse en Bretagne. Merci beaucoup d'être avec nous, Véronique.
Bonjour.
Alors, le salon de l'agriculture s'est ouvert et Annie Genevard, qui n'est jamais en retard d'une perle, a déclaré « Il faut opérer un réveil alimentaire auprès des consommateurs qui savent que l'agriculture française est la plus vertueuse ». Elle déclare ça alors que la balance commerciale de l'agriculture française est déficitaire, ce qui est quand même une première depuis très longtemps. Et donc, c'est un des résultats directs de l'action d'Emmanuel Macron. Avez-vous l'impression que le gouvernement et le président ont pris la mesure de la détresse des agriculteurs?
Non, tout traîne. Ça traîne, ça n'avance pas. Le réveil alimentaire, il aurait fallu l'avoir depuis très longtemps. Je pense qu'à la coordination rurale, on a toujours alerté sur ces chiffres, sur cette dégradation de notre situation. Ça fait quand même plus de 10 ans que la balance commerciale est négative avec les autres États membres de l'Europe. Donc, aujourd'hui, on a toujours des belles paroles, on a surtout des beaux sourires, on a des verres tenus dans la main par ces personnes-là qui finalement sont à la fête. Mais le salon de l'agriculture n'a plus de nom que celui du salon. Où est l'agriculture dans ce salon ? C'est ça la vraie question. Ces politiques s'y promènent juste en début de salon et disparaissent aussitôt. Et leurs paroles et leurs promesses aussi.
Alors, leurs paroles disparaissent, effectivement, les promesses aussi. Alors, les jeunes agriculteurs ont rencontré le président et ils ont expliqué qu'ils seraient très contents d'avoir autre chose que des paroles, même si Emmanuel Macron était abondant en paroles. La FNSEA a rencontré le président, la coordination rurale a fini par accepter de rencontrer le président, qui avait quand même expliqué que le président a dit à la coordination rurale, lors de leur entretien, qu'il était prêt à tenir une réunion intersyndicale, mais que la FNSEA et les JA ne le souhaitait pas. Il a pris l'engagement de tenir une réunion au palais réunissant les chambres d'agriculture, syndicats et interprofessions. Emmanuel Macron passe sa vie à promettre du dialogue, mais derrière, en fait, aucune décision n'est réellement prise, ou plutôt toutes les décisions qui sont prises vont dans le mauvais sens.
Alors, pour moi, pour les agriculteurs, il ne reste plus qu'une chose à faire. Si on veut que l'agriculture reparte, il faut que l'engagement tenu à ce même salon il y a 2 ans soit tenu, c'est-à-dire porter l'agriculture au premier rang. Comment on porte l'agriculture au premier rang? Ça veut dire au même rang que l'environnement. Ça veut dire qu'on travaille sur une charte de l'agriculture ou une charte de la souveraineté alimentaire. Comme ça, on fait aussi plaisir à Annie Genevard avec ce réveil alimentaire. Et cette charte de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire, appelez-la comme vous voulez, vous la mettez dans la Constitution française. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'un agriculteur aura un projet qu'il concerne l'eau ou qu'il concerne l'élevage, à partir du moment où ça s'inscrit pour préserver ou relancer la souveraineté alimentaire, eh bien ces projets devraient passer. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est simple à faire, qui était un engagement de Gabriel Attal il y a 2 ans et qui aujourd'hui, il y a urgence de concrétiser par une... Par ce moyen-là, parce que la loi d'urgence, on veut bien, mais on a déjà passé plus de 2 ans et demi sur une loi qui n'a abouti à rien. Le renouvellement des générations n'est pas là. Et tout ce qu'on a pu entendre dans la bouche d'Emmanuel Macron pour l'ouverture de ce salon, s'assurer du revenu des agriculteurs et j'en passe, eh bien tout ça, ce n'est que du vent. Ce n'est rien de concret. Nous, on veut du concret.
Alors, d'un point de vue très concret, la France Agricole a fait paraître un article où elle explique que c'est vraisemblablement du bétail importé d'Ukraine qui a lancé cette épidémie de dermatose nodulaire.
Alors, pour moi, je suis toujours prudente, surtout quand on connaît les capacités de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas été vérifiée, bien sûr, je l'ai lu aussi. Maintenant, c'est un moyen de contamination qu'on n'a jamais lu d'un point de vue scientifique. Donc, les transmissions se font par vecteur. Les transmissions ne sont pas possibles de bovins à autres catégories animales et aux humains. Donc, voilà, il faut prendre des précautions sur ce genre d'affirmation dont je n'ai pas eu le temps de vérifier. Mais ça serait vraiment grave. Par contre, les céréales ukrainiennes, oui, utilisent des produits pour 25% non autorisés en France et en Europe. Donc, bien sûr, on est là encore sur une concurrence déloyale, sur un modèle de production qui n'est pas celui souhaité ni par nos consommateurs, ni par les agriculteurs.
Je suis en train de recevoir Véronique Le Floch, donc de la coordination rurale, éleveuse en Bretagne. Tout à l'heure, nous recevrons Guillaume Bernard pour parler de la manière dont la droite a réagi à la mort de Quentin. Mais revenons à l'agriculture. Véronique Le Floch, sur ce salon de l'agriculture, il y a un stand 700 mètres carrés, la ferme digitale, où on est en train de nous expliquer que l'avenir de l'agriculture en France, ce ne sont que robots autonomes, capteurs embarqués, plateformes d'aide à la décision et solutions d'optimisation des intrants. Et cette espèce d'agriculture numérisée qu'on nous présente comme étant véritablement le futur des agriculteurs, Y a-t-il une chance qu'elle voie le jour où ne sommes-nous pas en train de rêver un monde où les agriculteurs auraient les moyens de cette agriculture-là, alors qu'en fait, les fermes font faillite et les fermes disparaissent ?
Alors d'abord, rappeler que ce salon, c'est un salon avec l'organisation faite par la FNSEA. Ils font partie du bureau, ils organisent ce salon. Et ce salon, ils l'ont tenu malgré l'épidémie de dermatose nodulaire qui s'est tenue et qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bovins au salon de l'agriculture. S'ils avaient été sages et en soutien à ces éleveurs, ils auraient dit, eh ben, écoutez, pas de bovins, pas de salon d'agriculture. Donc, c'est bien un syndicat qui est inscrit dans l'avenir, un avenir qui se fera plutôt avec l'intelligence artificielle, avec la robotisation, avec deux fois moins d'agriculteurs et peut-être sans vaches, avec de la viande cellulaire, qu'on sait qu'elle elle émet beaucoup plus de carbone, jusqu'à 25 fois plus que la viande produite dans nos champs, par nos éleveurs, dans nos campagnes. Donc, est-ce qu'il y a des chances que cette façon de faire prenne la place ? Là où elle sera subventionnée, hautement subventionnée, et certainement par une partie seulement des agriculteurs, elle pourra être expérimentée. Mais jusqu'où ira-t-elle ? Eh bien, ça, tout ça dépendra du prix que l'on recevra de nos produits. Je vois bien demain des vignes qui seraient traitées par infrarouge ou par ultraviolet, et, bien sûr, pour lutter contre toutes les maladies, mais à quel coût et est-ce que c'est accessible ? Finalement, ça fait partie du progrès que les agriculteurs ont toujours accepté, mais si ce n'est pas accessible à tous et qu'il faut encore s'appuyer sur des subventions, eh bien, ça risque de coûter cher à tout le monde. Et là, je ne suis pas sûre que finalement le résultat sera celui qu'on attend. Maintenant, à partir du moment où ça peut alléger tout ce qui est posture de travail, tout ça, on est preneur, parce que finalement, avec la disparition du nombre d'exploitations et la disparition des agriculteurs, eh bien, c'est nous qui cumulons ces charges. Alors, les charges administratives sont lourdes et pèsent sur nous, mais aussi le travail physique. Et tout ça, c'est à multiplier par le nombre d'heures que l'on fait chaque jour et que l'on fait tout au long de l'année. Donc, bien sûr, il faut alléger notre travail. Mais si c'est pour se dire que chaque agriculteur devra travailler pour deux, eh bien non. Enfin, je pense qu'on sera nombreux à capituler.
Et on a l'impression que le gouvernement français ne privilégie que les solutions les plus capitalistiques, que les solutions les plus financières, et qu'une fois de plus, le rêve du ministère de l'Agriculture n'est d'avoir en face de lui que des industriels de l'agriculture, des agro-industriels capables d'investir des sommes extrêmement conséquentes. Et en fait, c'est la petite exploitation agricole qui est visée directement ou indirectement.
Alors, tout à fait. Et juste rappeler quand même qu'Emmanuel Macron, c'est la génération des startups. Donc, c'est ça qui est mis en avant. Sauf que on a quand même vu des fermes verticales et autres sur Paris et dans d'autres régions de France coûter plusieurs millions d'euros et échouer, être mises en liquidation. Donc voilà, si ces fermes ne peuvent pas être rentables, et je vous rappelle, on n'est pas à Hong Kong, on n'est pas en Chine, on n'a pas des millions et des millions d'habitants qui ne seraient pas nourris en France. En France, on a encore la capacité de nourrir le pays, même si Paris, c'est en réalité deux jours de stock pour se nourrir. Donc, critiquer les agriculteurs qui pollueraient, les agriculteurs qui… c'est vraiment oublier qu'on a vraiment besoin d'eux.
Alors, on a besoin d'eux, et la FNSEA, que vous avez évoqué à plusieurs reprises, avait refusé dans un premier temps une réunion intersyndicale avec la coordination rurale. La FNSEA a démarré très très tard l'année dernière dans la critique du Mercosur. La FNSEA, en fait, s'est déchaînée une fois que le Mercosur était quasiment signé. Et Il y a-t-il dans le monde agricole un syndicalisme non seulement à deux vitesses, mais surtout à deux visages, un syndicalisme prétendument de progrès qui en fait a pris le pari de l'internationalisation, de la financiarisation, et un autre syndicalisme, vous, la Confédération paysanne, indépendamment de la couleur politique que chacun peut avoir ou qu'on colle à chacun, un syndicalisme qui lui est véritablement du côté des exploitants.
Ben, tout à fait. La FNSEA a toujours été le syndicat qui avait écrit le 10e plan déjà dans les années 90, dans lequel on voyait le nombre de fermes évoluer comme il évolue. Donc tout ça, c'est conforme à leur plan, avec une agriculture tournée vers l'export, un export qui aujourd'hui augmente beaucoup moins vite que l'importation, et c'est bien pour ça que notre balance alimentaire en globalité est passée négative. Donc oui, nous, on est pour maintenir ce territoire, cette alimentation faite par des agriculteurs, générant des emplois si demain on peut encore espérer être rémunéré. Donc oui, c'est un double modèle, celle qui s'inscrit dans l'agrandissement des exploitations qui demain ne seront plus transmissibles, sauf à des industriels, sauf à des banques. Et voilà, la boucle, elle est bouclée. L'asservissement qui est né de cette politique agricole commune en 92 arrive à ses fins. Des fermes usines, des fermes détenues par des tiers, et dedans ces fermes, des esclaves, pas forcément de la main-d'œuvre locale, française, mais de la main-d'œuvre exploitée, venant de partout, et au final, un niveau des salaires qui aussi pourrait baisser en France. Donc, tout ça, c'est bien calculé, ça s'inscrit dans une logique que certains peuvent comprendre, surtout à partir de leur bureau, mais nous, on défend notre survie, parce que justement, c'est pas ce qu'on veut imposer aux repreneurs de nos fermes, et on veut quelque chose qui tienne la route aussi dans nos assiettes.
Véronique Lefloc, cet entretien touche à sa fin. Est-ce que nous devons aller au Salon de l'agriculture ou est-ce que nous devons boycotter le Salon de l'agriculture ?
Eh bien, ça aurait dû être un signe de ne pas y aller parce que ce salon n'affiche pas, même dans les couloirs du métro, les agriculteurs. Si c'est comme les années précédentes, les allées des métros sont colonisées par des grandes enseignes de la distribution. Or, c'est un salon d'agriculture. Finalement, s'il n'y a plus rien d'agricole dans ce salon, eh bien, pourquoi y aller ? Nous, on espère une réforme de ce salon, qu'on se mette tous autour de la table, que ce salon ne soit plus celui de la FNSEA, mais un salon qui serait organisé par tous les agriculteurs, tous les syndicats, avec justement la vraie vie des agriculteurs, des animaux, nos problèmes d'évolution climatique, de l'accès à l'eau. L'eau est abondante cet hiver et on n'aura même pas su la stocker. On sera peut-être à court d'eau l'été prochain. Donc en fait, de la part de nos politiques, il n'y a pas de problème et on ne montre pas la réalité aux citoyens. Et la preuve, quelques photos que j'ai pu voir de nos hommes politiques et femmes politiques, ce sont des photos prises sur des stands d'industriels où on met en avant de la charcuterie industrielle avec Gabriel Attal. Enfin, je suis un peu... Ils se révèlent et finalement, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de nous, quoi ?
C'est un triste constat, Véronique Lefloc. Merci de l'avoir partagé avec nous et j'espère qu'on vous reverra sur Radio Courtoisie pour parler non pas de ce qui se passe et qui est catastrophique, mais de peut-être de solutions d'avenir. Merci beaucoup et à bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et j'espère surtout que vous aussi, vous êtes contents d'avoir été avec nous. Si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à rester le temps de nous soutenir et Franck va vous expliquer comment.
Oui, moi aussi, je suis content d'être avec vous et content de vous rappeler que Radio Courtoisie ne vit que grâce à vous, chers auditeurs. Alors, si vous le pouvez, en fonction de vos moyens, rendez-vous sur soutenir.rc.fr pour faire un don en ligne, soutenir.rc.fr.
Avec tout cet argent, on produit d'excellentes émissions, comme celle de M. Favre-Deschalins juste après, mais d'autres encore.
Français, mon beau souci, effectivement, avec Marc Favre-Deschalins en direct dans quelques secondes. Pour l'avenir s'écrit aussi en français. À midi, le libre journal de la Défense de Philippe Nicolardo pour le retour des forces morales.
À 14h, le libre journal d'Yves-Marie Adeline en direct. 16h, populaire, vous avez dit populaire, de Renaud Dourges. 16h30, en toute bonne foi, de France Andrieux pour Une part d'invisible. 17h, culture et politique, de Richard Haddad et Pierre Henry. À 17h30, c'est vous, Richard, qui dirigerez le Restons courtois du jour avec le rendez-vous de la réinformation. 19h30, le libre journal du lundi soir de François Costantini. Et puis à 21h30, la soirée musicale en compagnie de Virginie, ce que la musique fait de vous. Voilà pour le programme.
Voilà, et demain matin, évidemment, pléthore de bons intervenants où nous reviendrons sur toute l'actualité politique et internationale et qui permettent de faire de la France un grand pays ou pas du tout grâce à Macron. Merci beaucoup.
Bonne journée à tous et à demain.